Bienvenue sur Mediapart et dans notre collection Écrire l'histoire. Cela fera bientôt 150 ans qu'une insurrection populaire parisienne a marqué l'histoire sous le nom de Commune. Une expérience de pouvoir autonome en opposition à un gouvernement, à une assemblée nationale officielle qui s'était éloignée du Paris révolutionnaire pour se fixer à Versailles. Tout un symbole. L'épisode s'est conclu par un bain de sang, c'était fin mai 1871, une marque indélébile sur les débuts de la Troisième République. C'est de cet épisode et de sa résonance dans l'espace et dans le temps dont nous allons parler avec Quentin Deluhermoz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à Paris 13 et vous publiez tout juste cet ouvrage « Commune » avec un S entre parenthèses, c'est au seuil. Ce n'est pas une énième histoire factuelle de la Commune dont vous écrivez qu'elle est saturée d'informations, mais une réflexion plutôt sur la puissance de cet événement dans les imaginaires politiques à travers le temps et l'espace, comme je le mentionnais. Un mot pour commencer sur le choix d'Emmanuel Macron, le président de la République, de célébrer non pas les 150 ans de la Commune, mais récemment les 150 ans de la Troisième République, qui a été proclamée donc le 4 septembre 1870, qui est le régime ayant écrasé la Commune. En tant qu'historien ou en tant que citoyen, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce choix-là de commémoration ?
On verra ce qu'il en est le 18 mars 2021, mais on peut douter qu'il y ait une commémoration organisée par le pouvoir. En fait, le choix est à la fois logique et curieux. Il est logique du point de vue du pouvoir, c'est-à-dire que c'est la date de fondation officielle de la Troisième République qui correspond à ce que les historiens dits républicains ont voulu mettre en avant, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la République commence le 4 septembre et pas du tout à l'issue de la Commune. Après, le choix est étonnant dans la mesure où, dès le 4 septembre, ce qui s'ouvre, c'est bien une dynamique révolutionnaire, en tout cas dans Paris. Et la Commune s'insère aussi dans la continuité d'un premier mouvement d'opposition qui s'ouvre avec le 4 septembre. Mais sur l'actualité, ce qui est encore plus intéressant au fond, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était il y a maintenant longtemps, la Commune était devenue un objet froid. Et l'objet s'est réchauffé, en fait, depuis quelques temps, depuis, on va dire, 5-6 ans. On l'a vu en France avec Nuit debout, le mouvement des ZAD, les Gilets jaunes, mais aussi aux États-Unis avec Occupy Wall Street ou au Mexique. Et donc j'ai eu le cas assez extraordinaire d'un objet froid qui devenait chaud. Et ce qui se réchauffait correspondait un petit peu à l'approche que j'avais mise en œuvre. Donc c'était assez déstabilisant. Cette façon dont le passé peut se réchauffer me paraît plus intéressante, à vrai dire, que les commémorations officielles.
Alors parlons-en, j'aimerais que vous développiez un peu cet aspect réchauffement, parce qu'effectivement, vous écrivez « La Commune est toujours vivante au XXIe siècle » dans les premières pages du livre. Et la question qui vous sert de fil rouge, c'est au fond, pourquoi cet événement qui a duré à peine 72 jours, qui a des réalisations assez modestes à son actif, pourquoi est-ce qu'il résonne encore un siècle et demi plus tard ? Et en même temps, quand on parle autour de nous, dans le grand public, c'est pas une histoire non plus qui est très très connue, elle est assez peu enseignée également. Récemment, un autre historien, Nicolas Offenstadt, s'indignait de l'absence totale d'entretien des tombes des communards au Père-Lachaise, il prenait des photos de tombes laissées complètement à l'abandon. Donc ça se questionne quand même, ou ça se justifie ce fait de dire oui, c'est toujours vivant.
Il y a deux choses qui sont assez étonnantes. Le premier point, c'est la façon dont l'événement commune va traverser les temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle est réutilisée à chaque période avec des moments de chaud et de froid, mais jamais selon les mêmes logiques. Dans les années 70, c'était plutôt la thématique de la lutte des classes ou plus anarchiste qui était mise en avant. Aujourd'hui, ceux qui la réutilisent vont plutôt mettre en œuvre la question de la souveraineté populaire, du pouvoir par le bas, etc. Donc c'est la façon dont un même événement se prête à différents usages dans le présent. Et chaque présent, en quelque sorte, le ravive d'une certaine manière. Après, ces 72 jours qui ont eu un tel impact, pourquoi la question se pose ? C'est que, dès le début, l'événement a fait problème. Et il y a eu deux grandes lectures qui se sont imposées. Ça a été tout d'abord la lecture marxiste, qui en a fait un événement absolument fondateur entre ce qu'il appelait les vieilles révolutions, en tout cas les révolutions du XIXe siècle, et les nouvelles révolutions censées être modernes, structurées idéologiquement, etc. Et donc ça a mis la Commune dans un rôle absolument décisif dans l'histoire du monde. Et puis on a une autre histoire, qui est l'historiographie plus républicaine dont on a parlé tout à l'heure, qui a tendu au contraire à l'effacer un petit peu. Et comme l'historiographie marxiste, alors quand je dis historiographie marxiste, c'est soit ceux qui étaient les historiens ouvertement marxistes, ou ceux qui s'inspiraient de ce questionnement-là. Une fois qu'il s'est effondré dans les années 80, on a eu l'impression qu'au fond, il ne s'était pas passé grand-chose. Et avec non des historiens comme Alain Dalhotel, qui est quand même un grand spécialiste de la Commune, qui finissait lui-même par se demander, au fond, si on n'avait pas surinterprété et exagéré un petit peu l'événement. Et le livre essaie de comprendre, en fait, cette distorsion entre les deux. Comment 72 jours ont eu un tel impact? Ce que dit le livre, c'est qu'en fait, il a un impact dès le début, et par le haut et par le bas. Et ensuite, ça permet aussi de comprendre pourquoi la Commune à cette capacité, au fond, à traverser les temps. Et le livre se termine là-dessus. C'est-à-dire que probablement, d'autres usages se feront jour après que moi, je ne peux pas ni imaginer, ni postuler.
Bien sûr. Alors, une des pistes de réponse, on y vient, c'est la dimension ou la portée d'emblée globale de l'événement. Vous montrez, par exemple, que c'est un des événements les plus couverts médiatiquement de la période, à une époque où les médias aussi connaissent des mutations avec les agences de presse, hein, vous développez tout ça. Est-ce que vous pouvez préciser le sens de cet adjectif, la dimension globale de la Commune? Parce que ça fait partie d'une des originalités du livre, c'est que vous prenez l'événement en disant c'est pas juste un événement ni national ni parisien. Voilà, d'emblée, il a cette portée globale.
En fait, le mot global fait débat parmi les historiens. Donc, moi, je l'ai utilisé pour synthétiser plusieurs manières de faire. En gros, il y a à la fois les approches dites transnationales qui s'intéressent aux circulations. Donc, on les trouve dans le livre. Hein, c'est la circulation des volontaires internationaux. Quelqu'un comme Dombrovski en a un bon exemple. On a aussi ce qu'on appelle l'histoire impériale, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux relations entre la métropole et les colonies en essayant d'inverser un petit peu la relation centre-périphérie. Donc ça, on l'a avec l'exemple d'Alger, hein, qui occupe une place très importante dans l'ouvrage, mais aussi de la Martinique. Et puis, il y a global au sens de chaîne d'interdépendance mondiale. Et ça, on la retrouve un petit peu. Alors, sur le plan économique, parce qu'il faut quand même rappeler que Paris est la capitale de la deuxième puissance impériale au monde, deuxième place financière mondiale après Londres. Évidemment, quand la ville est bloquée, ça a des répercussions dans le monde entier.
Vous dites qu'il y a certains pays qui en profitent pour ne pas payer les dettes qu'ils doivent à la France.
C'est ça. Ça bloque tous les paiements de dettes. À l'inverse, en Argentine, par exemple, ça gêne énormément le fonctionnement de la bourse. Donc ça, c'est un premier effet. Et le deuxième, c'est évidemment la médiatisation. Ça a été la grosse surprise, en réalité, de l'enquête. Moi, je suis parti à chaque fois un petit peu avec mes fils, et puis je les ai tirés, certains ont marché, d'autres pas. Mais ce qui apparaît, donc j'ai utilisé les télégrammes Reuters, qui est la plus grande agence de presse de l'époque. Et il apparaît que 75% des mots qui circulent la semaine du 18 mars sont consacrés à la Commune de Paris, alors même que Reuters est censé s'intéresser à ce qui se passe dans le monde entier. Donc il y a une focalisation absolument extraordinaire sur l'événement, qui est même plus forte qu'au moment de la Semaine sanglante. C'est-à-dire que le 18 mars fait plus événement d'un point de vue médiatique que la Semaine sanglante.
Donc c'est le moment où la Commune se déclare, plus encore que le moment où elle est écrasée.
Tout à fait. Pourquoi? Parce que Paris, c'est la ville des révolutions. Il y a un imaginaire de la révolution qui est surpuissant. Après, évidemment, la portée globale, elle, pour le coup réel, de la Révolution française. Et tout ça rejoint un peu partout, de mille façons différentes. Hein. C'est tout sauf diffusionniste. Chacun se réapproprie l'événement à sa façon. Mais il y a un intérêt extrêmement puissant qui est sensible immédiatement.
Alors, j'avais une question qui prolonge cette réflexion sur le global, sur un terme qui revient plusieurs fois, qui est le terme de république universelle. L'idéal, en tout cas, de république universelle, c'est pas votre terme, c'est les acteurs eux-mêmes qui l'emploient de manière relativement consensuel. Ça m'intéresse parce que, quand vous l'avez rappelé, quand la Commune est revendiquée aujourd'hui, c'est souvent plutôt avec une sensibilité libertaire qui valorise l'horizontalité des pouvoirs, des pratiques. Et la référence républicaine, à vrai dire, est en fait assez soigneusement évitée. Et pour cause, si on regarde uniquement le cas français, la référence républicaine aujourd'hui, elle est très captée quand même par des discours assez conservateurs, assez excluants. On en a des exemples, on en parle dans d'autres émissions ici, sur la notion de séparatisme aussi qui est agitée par le pouvoir. Quel sens ça a à l'époque, cet idéal de république universelle?
Alors il y a deux choses différentes. Tout d'abord, il y a la question de la république universelle, c'est-à-dire qui serait pour tous. Ça, c'est un discours qui vient plutôt de 1848. Il y a d'autres conceptions du monde qui apparaissent sous la Commune. Il y a un décalage, en fait, entre ce que les communeurs imaginent d'être universel, donc un universel qui passe la France, qui part de la France, et la façon dont chacun se réapproprie la Commune à l'extérieur. Mais votre question, elle pose, en fait, un problème plus important sur ces questions de définition de la République. Et là, je m'inscris dans ce qu'a pu rappeler quelqu'un comme Jacques Rougerie, qui a beaucoup travaillé sur la Commune, c'est qu'il y a un passé républicain qu'on appelle démocratique et social en France, qui a été effectivement occulté, mais précisément à ce moment-là. Et qu'est-ce que la République démocratique et sociale? C'est l'idée que vous ne pouvez pas changer les relations de pouvoir, la République, sans changer les rapports économiques et sociaux. Donc c'est inévitablement et politique, et économique, sociale. Et par ailleurs, le mot d'ordre, c'est l'association. Vous devez avoir des associations de producteurs, des associations de consommateurs. L'idée étant qu'il y ait de moins de spéculation possible entre les événements.
De donc, façon... C'est pour ça qu'il y a des socialistes à l'époque qui se disent associationnistes en même temps qu'ils sont républicains. Ce n'est pas contradictoire.
Non, la République est porteuse en fait, de cet idéal-là. Et alors, ce qui est intéressant quand on prend une approche globale, c'est qu'on se rend compte qu'entre 1840 et 1870, cette lecture un peu fédéraliste de la République par le bas, elle est assez partagée. On va la retrouver aux États-Unis, on va la retrouver au Mexique, on va la retrouver dans toute l'Amérique latine. Mais c'est vrai que la commune est probablement le moment où cet idéal, qui est aussi un idéal d'autonomie, hein, l'enjeu de la commune, c'est être son propre maître, est le plus fort. Le mot d'ordre de la commune, on l'a dans un texte assez important du 19 avril, qui dit qu'il faut universaliser le pouvoir et la propriété. C'est ça la meilleure définition. Un peu de pouvoir et de propriété, le même pouvoir et propriété pour tous. C'est un peu ça l'idée.
Universaliser le pouvoir et la propriété. Alors, ça, c'est la dimension, on vient de parler de la dimension globale. On peut aller aussi vers le local, puisque vous jouez tout le temps des échelles. Et il y a un pluriel à commune dans votre titre, donc je pense que c'est important d'évoquer aussi les autres communes, en dehors de Paris, donc. Parfois, certaines même se lancent antérieurement à Paris. Je voulais vous entendre sur l'opposition qu'il y a entre deux communes qui ont lieu dans l'espace impérial et colonial français. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y en a une qui est menée en Martinique, au sud de la Martinique. Là, c'est plutôt d'anciens esclaves qui sont à la manœuvre et ils contestent un ordre racial maintenu malgré l'abolition de l'esclavage en 1848. Et puis, il y a une autre commune, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la commune d'Alger. Et là, vous parlez même de commune coloniale. Tant la problématique des décolonisés est complètement écartée. Hein. C'est vraiment des colons donc, qui mènent cette commune. Comment ça se fait qu'à travers, en plus, cet imaginaire très démocratique, on puisse avoir des communes aussi différentes l'une de l'autre?
C'est la raison pour laquelle j'avais choisi ces deux exemples. Alors, Martinique, en fait, ce n'est pas une commune. Mais c'est pour ça que votre question de départ sur le 4 septembre était vraiment intéressante. Elle s'inscrit dans la continuité du 4 septembre 1870. Je l'ai choisi parce qu'elle montre en fait les potentialités révolutionnaires du 4 septembre. Au moment où la nouvelle du 4 septembre arrive en Martinique, on a une vaste insurrection qui est la plus grande insurrection post-abolition, qui s'appelle l'insurrection du Sud, qui est menée effectivement donc par les anciens esclaves, qui sont très déçus d'une part parce que les pouvoirs politiques ont été reniés sous le Second Empire, et d'autre part parce qu'ils ont quasiment rien obtenu en termes économiques. C'était un désarrangement finalement post-abolition. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, la République française va réveiller la mémoire de 1848, la mémoire d'Haïti, et donner lieu à un mouvement qui est effectivement un mouvement de réplique sociale plutôt des cultivateurs. Et on retrouve très nettement dans les archives du procès ces termes-là. Hein, nous rentrons dans nos droits, nous sommes en République, nous avons le droit de retrouver nos libertés, etc. Donc là, elle est extrêmement intéressante parce qu'on voit effectivement un mouvement républicain qui fait partie aussi de l'histoire de France et qui est propre aux anciens esclaves. Du côté d'Alger, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un profil complètement différent. Ce sont plutôt les anciens déportés de 1848 qui sont retrouvés en Algérie. Et qui, au moment toujours du 4 septembre...
Donc d'anciens révolutionnaires qui avaient été envoyés de l'autre côté de la Méditerranée.
Oui, c'est ça. Après 1848 et puis après le coup d'État de 1851, on a utilisé les colonies comme espace pour mettre à l'écart, en quelque sorte, ces révolutionnaires qu'on jugeait trop dangereux. Et donc sur place, eux, dès le 4 septembre, ils ont évoqué une commune, avec en tête plutôt la commune de Paris. Une fois que la commune de 1793, une fois que la commune de 1871 démarre, ils adhèrent à la commune, donc là on a une adhésion directe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils proclament aussi l'universalisme, un universalisme républicain, mais qui oublie complètement l'existence des colonisés autour. C'est même pire que ça, le projet républicain, c'est ce qu'ils appellent un projet coloniste. L'idée au fond, c'est que l'occupation des terres a été gênée par le Second Empire, et il faut donc qu'on puisse profiter correctement de ces terres qui sont disponibles.
Donc aller encore plus loin dans la colonisation.
Exactement. Quoi.
Alors même que se prépare ce qui va être appelé la révolution kabyle ou l'insurrection kabyle.
Les deux sont liés en fait. L'insurrection kabyle, elle débute avec la guerre de 1870 et elle s'accélère en fait avec cette commune d'Alger pour une raison très simple, c'est que d'une part les acteurs constatent que le pouvoir français est fragilisé. Et puis d'autre part, ils comprennent très bien l'enjeu qui est qu'au fond, la colonisation qui est déjà terrible va s'accentuer. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer après.
Comme je suis de Lyon, je ne pouvais pas éviter une question sur ce que vous dites sur la commune de Lyon. Mais plus sérieusement, c'est aussi qu'elle illustre aussi la démarche de l'ouvrage. C'est que vous dites qu'au fond, il y a en quelque sorte plusieurs communes qui se succèdent ou plusieurs tentatives d'en faire une vraie commune, entre guillemets. Donc il y a une sorte de couche comme ça de signification où vous parlez d'emboîtement des communes, donc qui fait un peu écho à tout ce que les gens ont investi dans la commune réellement existante, y compris à Paris, quoi.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans le cas de la commune de Lyon, qui mériterait d'ailleurs encore d'autres travaux, à vrai dire, c'est que le mot commune, en 1870-71, il a plein de sens différents. Ça peut être soit le pouvoir républicain aux villes, soit un projet de transformation sociale un peu plus poussé. Et dans la commune de Lyon, effectivement, tous ces niveaux sont proposés, s'enchevêtrent, se mêlent et luttent entre eux. Mais la commune de Lyon dure finalement beaucoup plus longtemps que celle de Paris. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de la commune de Lyon, c'est qu'on a un changement dans les acteurs révolutionnaires. En 1848 et en 1830 et même auparavant, les ouvriers qui font les révolutions à Lyon, c'est les canuts. Ouais. Avec la commune, c'est la fin en fait des canuts. On commence à avoir plutôt les ouvriers de la guillotière, qui sont les ouvriers de la métallurgie, qui vont prendre en charge un petit peu cette volonté de transformation du monde. Donc la commune est intéressante aussi pour ça, c'est qu'elle sert de point de jonction dans l'histoire lyonnaise. C'est toute une histoire ouvrière du 19e siècle qui passe le relais en quelque sorte.
Alors sur, on va aller petit à petit vers la postérité de la commune. On l'a dit, au fond, en 72 jours, c'est tout à fait naturel. Malgré les grandes ambitions affichées, les réalisations sont assez modestes. Vous le dites, hein, au fond, ça change pas la structure, les grandes structures de pouvoir qui sont en place à l'époque. L'événement, vous dites, contribue finalement, paradoxalement, à consolider la forme d'État qui se met en place à l'époque de manière assez globale, encore une fois. Est-ce que vous pourriez préciser justement quelle est cette forme d'État qui se met en place à l'époque, dans les années 1860, 70, 80 et est-ce qu'on est encore dans cette forme d'État ou est-ce qu'il y a eu d'autres étapes par la suite? Comment vous diriez les choses?
Alors, tout d'abord, je reprends pas tellement à mon compte l'idée qu'il ne s'est rien passé. Je dis en fait, se passe plein de petites choses partout. Et toutes ces petites choses mises ensemble, c'est quand même un vrai processus révolutionnaire de transformation des rapports sociaux, du rapport au temps, avec la résurgence de l'idéal révolutionnaire. Sous la commune, ça prend plutôt la forme d'une multitude de ce qu'on appelle aujourd'hui des utopies réalistes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital des enfants du peuple, le communard qui prend ça en place va augmenter les salaires des commis, va baisser son propre salaire, va mettre à l'écart tout ce qui a l'air religieux, etc. Donc on a quand même une vraie transformation révolutionnaire. Simplement, elle est littéralement coupée dans l'œuf au bout de 72 jours. Et l'argument du livre, c'est de dire que cette transformation-là fait sens, et le fait qu'elle soit coupée, ça facilite d'une certaine manière les appropriations postérieures. Alors, sur l'État, en fait, on est dans un moment assez particulier. Les années 1880, donc ce qui arrive après, ce qui va faciliter la commune en réaction, c'est un moment de renforcement de l'État-nation, y compris dans son rapport aux empires. C'est-à-dire, c'est un moment où la colonisation se développe et on commence à avoir une logique beaucoup plus territoriale. C'est aussi le moment où se mettent en place les partis, les syndicats. Alors, les sociologues appellent ça un changement du répertoire d'action collective. C'est un mot très chic. Mais pour désigner des choses assez simples, les relations à distance sont plus fortes et le rapport au pouvoir est complètement transformé. Un historien qui s'appelle Yves Cohen a parlé d'un siècle des chefs. Je trouve que l'expression est assez bonne. C'est-à-dire qu'on a besoin de leaders un peu partout, dans les entreprises, dans les partis, dans les syndicats, etc. Donc on a un rapport au pouvoir qui est effectivement complètement opposé à ce qui était proposé sous la commune. Ce qui explique cet effet d'effacement dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc la commune, en réaction, d'une certaine manière, va avoir tendance à renforcer ces logiques-là sous une forme, par ailleurs, libérale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'appuie sur des constitutions, un vote, etc. Donc c'est une forme d'État.
Oui, c'est assez plus une domination brutale et directe comme auparavant. C'est sous des formes plus civilisées, entre guillemets.
En tout cas, sur des formes plus libérales et démocratiques, au sens de la démocratie libérale. L'exemple type, c'est la République conservatrice de Thiers. Et alors, pour revenir à votre question, ce qui est intéressant sur aujourd'hui, pourquoi ça ressurgit si fortement aujourd'hui? Pourquoi de froid, c'est devenu chaud? C'est que cette mutation, qui est une mutation anthropologique du rapport à l'ordre, a tendance à s'effacer en fait depuis les années 1980, sous l'effet de ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais aussi sous l'effet du changement du rapport au temps. C'est la fin des grandes idéologies, justement. C'est aussi la difficulté à se projeter dans l'avenir. Donc tout ça modifie un petit peu les rapports de force. Ça explique pourquoi les partis peinent à mobiliser des gens, pourquoi les syndicats aussi ont aussi du mal. Et ça explique aussi ce que toujours le même Yves Cohen appelle les mouvements sans leader, c'est-à-dire tous ces mouvements dont on a parlé tout à l'heure. Et on comprend pourquoi ces mouvements sans leader redécouvrent en quelque sorte la commune, en tout cas cette commune, c'est qu'il y a un écho assez fort sur la conception d'un pouvoir plus horizontal, avec une forte propension à transformation sociale. Donc la résurgence actuelle de la commune signale elle aussi une mutation dans les rapports de force dont on ne voit pas encore très bien où elle va mener.
Ouais. Et pour rebondir aussi, est-ce qu'il ne retrouve pas aussi cette inspiration à cet épisode de la commune aussi parce que toutes les stratégies ultérieures des révolutions supposément modernes ont échoué. Après tout, quand on voit ce qu'il est advenu du destin bureaucratique, liberticide du communisme soviétique ou de l'enlisement du réformisme en Europe de l'Ouest, qui n'ont pas réussi finalement à vraiment changer la vie ou changer les rapports sociaux dans un sens véritablement démocratique et égalitaire. Est-ce que ce n'est pas une façon de se dire, en fait, on essaie de redécouvrir les traditions qui ont été occultées par ces stratégies, soit de révolutionnaires professionnels, soit de ceux qui faisaient le pari de l'État et de rentrer dans l'État existant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir la critique qu'avaient fait ces nouveaux révolutionnaires à la Commune. Ils lui reprochaient précisément de manquer de leadership, de manquer d'avant-garde, de manquer d'idéologie structurée. Et la Commune va servir de contre-modèle à ces nouvelles formes de... modèle et contre-modèle, en réalité, à ces nouvelles formes révolutionnaires. Donc, c'est assez intéressant que ces formes disparaissant, l'ancien modèle, d'une certaine manière, retrouve une certaine actualité. Ce qui est intéressant, c'est aussi là où on a des décalages entre aujourd'hui et la Commune. La Commune, quand même, c'est une révolution qui se fait à l'ombre d'une guerre. Et le lien entre guerre et révolution est très important. C'est une vraie révolution de travailleurs, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une révolution qui disait il faut pousser la démocratie dans tous les espaces sociaux, y compris le travail. Ouais. S'il y avait une leçon, entre guillemets, à tirer, j'aime pas du tout ce terme, mais ça serait au fond de s'interroger sur pourquoi les espaces de travail ne sont pas plus mobilisés dans la réflexion sur les formes démocratiques. À l'inverse, on ne trouvera pas d'attente écologique sous la Commune. Donc du coup, il faut toujours faire de l'histoire en faisant des allers-retours. Moi, mon objectif, c'est de comprendre la façon dont les hommes et les femmes du passé ont vécu à ce moment-là.
Alors justement, une des dernières questions que je voulais vous poser, c'est pour vous faire prolonger ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a quand même des utopies réalistes en quelque sorte qui s'organisent à cette époque et qui ouvrent une brèche au fond dans les ordres sociaux de l'époque. Je vais vous faire commenter les termes que vous employez parce que vous parlez de la Commune comme d'un tremblement. D'un événement certes fugace mais ouvert et profond. Et ça se veut comme une réponse à votre énigme de départ. Hein. Ça dure 72 jours mais ça résonne encore. Qu'est-ce que ça veut dire un événement ouvert et profond ?
Oui, c'est ça. Les deux éléments du livre pour expliquer cette énigme, c'est d'une part cette dimension globale qui tient beaucoup plus au statut de Paris en fait. Hein. Puis d'autre part, c'est le rappel que même si ça a été interrompu brutalement, il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Alors pourquoi fugace ? Parce que ça dure 72 jours. Pourquoi ouvert ? Parce que la dynamique qui est enclenchée est brutalement coupée. Ce qui fait qu'on peut y projeter tout ce qu'on veut. On peut dire qu'il ne s'est rien passé, que ça aurait été merveilleux, qu'on a eu au contraire une nouvelle terre. Enfin, toutes les lectures sont possibles. Et pourquoi profond ? Parce qu'en fait, au moment même de la Commune, vont rejouer beaucoup d'histoires antérieures, toutes les histoires révolutionnaires, la mémoire des communes médiévales, et la volonté de changer, au fond, les rapports économiques, notamment à l'échelle de l'atelier. Et ce qui fait que sous ces 72 jours, on a une profondeur temporelle assez exceptionnelle. Donc le livre au centre essaye de tirer ces différentes échelles temporelles. Donc on va aux années 1860, puis à les mondes ouvriers jusqu'aux années 1880. Puis on va descendre encore un petit peu jusque sous la Révolution française. Puis on descend encore plus loin avec les révoltes médiévales. Et en fait, j'essaie même d'aller encore un peu plus loin. On a célébré malheureusement la mort de David Graeber là assez récemment. J'ai essayé d'appliquer...
Un anthropologue. Et en fait, vous citez ces travaux d'anthropologue qui essayent de voir jusqu'où les expériences démocratiques pouvaient aller, y compris très très loin dans le temps.
Son argument, c'est de dire qu'au fond, ces formes de démocratie horizontale font partie des formes possibles du devenir historique. Et qu'on va retrouver dans plusieurs espaces et à plusieurs moments. Et un des arguments, c'est-à-dire qu'au fond, la Commune, ce qui fait sa profondeur, c'est que c'est une actualisation de ça à un moment où l'État se renforce, où l'industrialisation se développe. Et donc ça rappelle qu'il y a cette généalogie-là aussi dans ce qu'on a appelé ensuite la modernité. Voilà un exemple de la profondeur qu'on peut tresser. Là, je suis un peu plus loin de mon rôle d'historien. Je précise à chaque fois à quel niveau je suis sûr ou moins sûr de mon hypothèse, évidemment. Mais je pense que cette question, quand même, qui a travaillé les historiens, les sociologues, les philosophes, parce que la Commune, c'est aussi un monument intellectuel, ça a été aussi celle-là. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que la démocratie qui est présentée par la Commune ? Et Jacques Rougerie parlait, lui, d'un degré zéro de la démocratie. Castoriadis parlait, lui, d'une démocratie autonomiste. C'est un peu tout ça. En tout cas, ce mouvement de la Commune continue de poser ces questions-là. Et c'est un petit peu ça que je voulais faire voir.
Alors, on va terminer en poésie, puisque vous ouvrez votre conclusion générale sur une citation de Rimbaud, dont je retiens ce vers « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Alors, je crois comprendre pourquoi vous avez choisi cet extrait, parce que vous faites partie des historiens qui s'intéressent au possible, au futur non advenu. Vous avez fait des travaux avec d'autres collègues là-dessus. Comme historien, comme citoyen, est-ce que c'est pour ça que la Commune aussi vous mobilise intellectuellement et vous fascine pour ces futurs non advenus et qui pourraient advenir ?
Oui, c'est effectivement un livre que j'ai fait avec Pierre Saint-Garvelou. Là où les futurs non-advenus ont été utiles pour moi dans ce livre, c'est d'une part de rappeler que toute l'histoire du XXe siècle n'est faite que des futurs non-advenus de la Commune. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donner un sens à l'événement, c'était le projeter sur lui un futur non-advenu, qu'il soit marxiste, républicain, conservateur, etc. Et en ce sens-là, les futurs non-advenus sont un vrai acteur de l'histoire, au fond, d'une certaine manière. Et le deuxième élément, ça renvoie un petit peu à ce que je disais. Moi, l'argument, c'est que je n'ai pas tellement de leçons à donner sur ce qu'est l'événement, mais en tout cas, faire voir à quel point ça a été impossible, très puissant, chargé de tout un 19e siècle qu'on a oublié, au-delà de ça, qui a été coupé dans l'œuf, ça, c'était important de le montrer. C'est pour ça que je dis que c'est une expression historique du possible, et c'est pour ça que ça continue de fasciner, c'est qu'on y voit en permanence ce qui aurait pu être, et on y projette ce qu'on veut. En ce sens-là, la puissance de créativité de l'événement n'a probablement pas fini de produire ses effets.
Merci beaucoup. Voilà, il y a des possibles non advenus et puis il y a ceux qui sont devant nous. En tout cas, merci de nous faire réfléchir à ça à travers cet épisode historique de la Commune. Je rappelle votre ouvrage, hein, Commune, avec ce S entre parenthèses. C'est aux éditions du Seuil. Je vous remercie beaucoup d'être venu le présenter.
Merci à vous.
À bientôt sur Mediapart pour d'autres entretiens de ce type. Et puis, rendez-vous aussi toute la semaine avec l'émission quotidienne à l'air libre, en accès libre. Merci à vous.